des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. L'enfant et les peurs, deuxième partie. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons localisé et tenté de circonscrire les peurs de l'enfant, peurs irrationnelles, certes, mais constitutives de son développement. Ces peurs, rarement phobiques, sauf dans certains cas, comme la phobie scolaire dont nous avons parlé, ces peurs, disais-je, doivent être accompagnées et accueillies par les adultes, car la peur s'inculque, s'apprend, se conditionne, se transmet. On se contamine par la peur des autres, écrivait Jean-Pierre Benoît dans la revue Enfance et Psy, c'était en 2015. Dans le film australien Mr. Babadook de Jennifer Kent, un petit garçon de 6 ans voit soudain ses cauchemars prendre vie.
Tu l'as trouvé où ?
Sur l'étagère.
Un mot, un regard ne suffira pas. Le Babadook, tu ne le chasseras pas. Un sourd grondement, puis trois coups.
Babadook, douk, douk.
Tu peux être sûr qu'il est déjà là. Ouvre les yeux, tu le verras. Il n'arrivera rien, Sam.
C'est ce que tu pensais pour papa avant qu'il meure.
Il dit les choses comme elles sont.
Je promets de te protéger si tu promets de me protéger.
Oh non, il n'a blessé personne, j'espère.
Ce petit a un comportement pathologique.
Ça suffit, ces histoires de monstres, d'accord? Ce n'est qu'un livre. Il ne peut pas te faire de mal.
Docteur Dominique de Michel, bonjour.
Bonjour Simon.
Ce n'est qu'un livre, il ne peut pas te faire de mal. Est-on vraiment certain de cela ? Vous voyez quel angle je souhaiterais aborder au niveau de la peur, celui évidemment de l'imaginaire.
Oui, dans ce petit extrait-là que vous venez de passer, je trouvais que c'était intéressant parce que, bon, à la fois on ne comprend pas grand-chose, mais c'est comme si on était saisi par un espèce de mélange entre une histoire. On se demande si son papa est vraiment mort, mais on a envie de penser que peut-être il est mort. D'un personnage qui est en fait imaginaire, puisqu'il y a cette espèce de monstre là dont on ne sait pas trop grand-chose.
Qui est sorti d'un livre pour enfants, en fait, à la base.
Voilà, on repense à ce livre, par exemple, Max et les Maxi-monstres. Je ne sais pas si
tout à fait, bien sûr,
vous avez lu ça à vos enfants. Et puis, il y a aussi cette phrase de cette femme qui ramène à la réalité et qui dit... Laisse tomber ces monstres, voilà, ça vient que d'un livre, c'est-à-dire ramène à la réalité. Donc on voit bien, il me semble, dans ce petit extrait, qu'il y a toujours, au fond, par rapport aux phobies, une articulation entre la réalité, la plus concrète, deuxièmement, l'imaginaire, qui va venir ou déployer et ouvrir un monde tout à fait terrifiant, ou donner... accès au fond à un monde intérieur qui est rempli aussi de monstres inconscients. Hein.
Mais docteur Dominique Desmichel, on aime se faire peur. On va revenir à l'enfance bien sûr, mais parce que l'enfant aussi aime se faire peur. Mais nous encore adultes, les films d'horreur ont un vrai succès. Scream ou Freddy. Alors pas chez tout le monde, mais ils ont quand même un vrai succès.
Ben, il paraît, oui, à dire vrai. Moi, je ne suis pas du tout fan de ce genre de choses et je dois dire que même Orange Mécanique, je n'ai jamais regardé ce film et peut-être moi, je fais partie des gens qui ont peur d'avoir peur, alors c'est possible. Donc, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. Il me semble que dans la grande majorité des cas, les gens n'ont pas de plaisir à avoir peur. Hein. Ce qui me semble, c'est que dans bon nombre de situations... ils sentent intérieurement la nécessité de se confronter à leur peur. Parce que, au fond, dans la vie, obligatoirement, on va avoir peur. Donc, les peurs et les moments phobiques chez l'enfant font partie des choses qui sont obligatoires et incontournables. C'est quand ça prend des proportions importantes qu'il y a lieu un petit peu de s'inquiéter, ou parce qu'il y a un retentissement familial, un retentissement social. Retentissement familial, c'est par exemple, l'enfant se met en colère pour un oui ou pour un non, il a du mal à s'endormir, il se réveille la nuit, il vient dormir dans le lit de ses parents, il arrête de manger, d'autres choses. Ou dans la sphère scolaire, ou dans la sphère relationnelle avec ses amis ou ses copains, et où il y a parfois quelque chose d'une peur qui est projetée sur un élève. Ça prend d'autres formes. Si ça dure, je pense que c'est important de se dire que pour l'enfant, la peur, c'est toujours la peur de quelque chose. Et que même si ce quelque chose ne renvoie pas à une réalité factuelle, ça renvoie à une sorte de ressenti, de vécu intérieur pour l'enfant et qu'il y a lieu de s'en occuper. Et que la seule chose, enfin l'essentiel, le premier élément au fond qui va rassurer l'enfant, ce sont quand même les parents, c'est-à-dire les paroles maternelles, c'est-à-dire les paroles maternelles du papa ou de la maman, d'un environnement qui va le contenir et le sécuriser, et en même temps l'aider à élaborer. C'est très important, par exemple, moi je le fais beaucoup avec les enfants que je reçois dans mon cabinet et qui ont des peurs importantes, de mettre en image, ça compte de mettre en image. Cet imaginaire, si on propose à l'enfant de le déployer, il suffit en général de lui dire « raconte-moi ». Raconte-moi ce qui se passe, raconte-moi ce que faisait ce monstre. Est-ce que tu peux le dessiner? Ça ressemblait à quoi? Un démon, une sorcière, ça te fait penser à quoi? Voilà, on avait évoqué lors d'une émission dernière, je crois, cette espèce de monstre qui avait une énorme gueule et où, au fond, le fait d'imaginer qu'on puisse construire, fabriquer une muselière et lui mettre, pouvait être quelque chose qui était très apaisant.
Docteur Dominique Michel, déployer l'imaginaire, certes, mais aussi le nourrir. On lit aux enfants des contes, on lit aux enfants des histoires qui font peur. C'est probablement les parents qui, la première fois, parlent du loup ou de la sorcière. L'enfant, il n'invente pas du fond de lui-même, quoique. Donc, nourrir cet imaginaire, c'est aussi important. Et les contes merveilleux, ont une grande part dans cet imaginaire.
La totalité, je dirais, des contes sont, peut-être pas la totalité, mais une grande majorité des contes sont quand même des contes avec des figures tragiques. Il y a des contes drôlatiques, ça existe aussi, mais quand même le plus souvent ce sont des histoires tragiques qui risqueraient de se terminer mal, mais qui souvent se terminent bien, puisque la fonction principale du conte, c'est de proposer une situation potentiellement traumatisante à l'enfant, et de l'ouvrir à une solution. Cette solution n'est pas une solution factuelle, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est une solution symbolique et affective.
Ça se termine bien, mais c'est loin d'être un monde doucereux et mielleux qui est présenté dans les contes.
Bah, tout à fait.
Les méchants, aussi bien la mère que le père, s'ils sont du côté obscur, ils le payent le prix cher.
Ah oui, tout à fait. On trouve des parents qui abandonnent, on trouve des mères qui ont envie de dévorer leurs enfants en allégretelle, par exemple. On trouve des pères qui ressemblent à des ogres, donc qui ont envie de dévorer, voire le plus souvent quand même d'abuser de leurs enfants, c'est-à-dire en fait de les violer. Donc on est dans quelque chose qui est tout à fait terrible. Et pour reprendre votre question de tout à l'heure, à savoir si ça existe avant, si c'est les parents qui le proposent, ou s'il y aurait un
archétype.
Voilà, mais je crois qu'en fait, fondamentalement, l'expérience de la vie, c'est l'expérience d'une confrontation à des moments où ça n'est pas simple. Et à partir du moment où on ne connaît pas la situation, on ne sait pas comment la maîtriser, on a peur, c'est normal. Voilà. Donc à partir de là, les contes en particulier, mais aussi une bonne partie des livres pour enfants, mettent en scène des situations qui sont potentiellement génératrices de peur et disent à l'enfant que d'abord, il n'est pas tout seul à vivre ça. Deuxièmement, que les héros, ça existe et que les héros vont pouvoir vaincre les sorcières et les ogres, par exemple, pour dire les choses les plus simples. Et que lui, il peut aller puiser dans ce savoir des héros, c'est-à-dire devenir lui-même un héros.
Oui, mais docteur Dominique Demichel, pourquoi ne pas lui lire le journal dans ce cas-là? Pourquoi avoir besoin de recourir à ce monde merveilleux, cette autre réalité du monde, qui est celle du merveilleux? Sinon, on pourrait lui lire effectivement des histoires vraies de cow-boys qui arrêtent des méchants, par exemple.
Lire le journal, par exemple, à l'enfant, renverrait à une situation essentiellement extérieur à lui-même et qui concerne le monde des adultes, alors que dans les peurs de l'enfant, il s'agit avant tout d'une réalité intérieure qui concerne la confrontation de l'identité de l'enfant, de sa personne, à ses monstres intérieurs. Normalement, dans une famille où les choses se passent bien, la confrontation à ses monstres intérieurs est inévitable, Mais normalement, la dureté de la vie, c'est de la responsabilité des parents. Normalement, les parents suffisamment contenants et sécurisants apportent au moins une sécurité concrète à l'enfant, c'est-à-dire pouvoir manger, dormir, se chauffer, aller à l'école et apprendre à entrer en relation. Mais pour ce qui concerne la confrontation avec ces monstres qui sont à l'intérieur de lui-même, la parole des parents est tout à fait indispensable. Mais la mise en scène de ce qui se joue à l'intérieur de la psyché de l'enfant passe justement par ses contes, par tous ces livres destinés aux enfants et qui racontent tous ces drames qui sont d'abord et avant tout des drames intérieurs. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de situations de guerre réelle avec, ou des situations des migrations ou des situations de naufragés ou de pirates. Et encore, s'il y a des pirates ou des corsaires ou des méchants, le plus souvent, ça va dire quelque chose de la réalité intérieure de l'enfant, donc en particulier de ses fantasmes.
Et pourtant, on peut aussi lire les contes comme une mise en garde contre le vrai monde, contre la vraie réalité. Vous parliez des parents abusifs, par exemple, ou de n'importe quelle autre trahison qui malheureusement pourront arriver plus tard à l'enfant. C'est aussi une mise en garde contre ça.
Alors je pense qu'il y a deux niveaux. Prenons deux exemples. Les parents qui abandonnent et puis les parents qui vont être dans une position, on va dire, perverse avec l'enfant. Hein. Pour les parents qui abandonnent, il me semble qu'il y a les deux dimensions. Celle qui va être inscrite dans la réalité, c'est-à-dire des parents qui abandonnent ou concrètement ou psychiquement leurs enfants. Hein, psychiquement, je voulais dire, qui ne leur donne pas suffisamment d'amour, bien évidemment, ça existe. Voilà. Et donc, ça dit à l'enfant que s'il a le sentiment que ses parents sont, on va prendre une situation à minima, sont toujours au travail et jamais avec eux en tant qu'enfant, que cette réalité soit objective ou subjective, peu importe, alors le conte peut l'aider à se défendre. Mais il y a aussi une dimension qui est beaucoup plus universelle, qui est que lorsque le conte raconte une histoire de parents qui abandonnent, c'est aussi une manière de dire à l'enfant « Mais quand tu vas grandir, eh bien, il va bien falloir que tu vives sans tes parents. Hein. » Donc c'est aussi, vous voyez, il y a ce rapport à la réalité qui est qu'il y a des parents qui sont déficients. Voilà, il y a des mères déficitaires, il y a des pères complètement absents. Mais que aussi, c'est l'expérience de la vie que d'un jour, il faut grandir. Hein. Moi, je me souviens bien, très, très, très bien, mais je crois que j'avais déjà dit ça une fois, combien à un certain moment, quand j'étais enfant, je me suis dit, mais quand je serai grand, est-ce que je saurais ne pas oublier le soir de fermer la porte de ma maison? Voilà, ça voulait dire qu'à cette époque-là, j'étais en train de prendre conscience que jusque-là, c'était mes parents qui assuraient la sécurité, c'est-à-dire qui fermaient la porte de la maison, et dans le sens concret et dans le sens symbolique, ils assuraient ma sécurité, et qu'en grandissant, il allait bien falloir que je le fasse moi-même. Alors quand on devient adulte, on n'oublie pas de fermer sa porte le soir avant d'aller se coucher, ou on la laisse ouverte parce que ce n'est pas important, ou qu'on n'a pas peur, ou autre chose, ou que ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, donc par rapport à votre question, il me semble qu'il y a ces deux niveaux, et du côté d'une réalité extrêmement concrète, mais aussi d'un apprentissage par rapport à une réalité symbolique, et une réalité affective auquel l'enfant va devoir se confronter.
Alors, docteur Dominique Michel, il faut lire des histoires aux enfants, on l'entend, tout le monde le dit, c'est important effectivement pour développer leur imaginaire, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop d'imaginaire? Le syndrome de Peter Pan, alors qu'est-ce qu'on en fait de ces enfants qui n'arrivent plus à faire la différence entre l'imaginaire et la réalité? Ça existe vraiment ou c'est encore un conte?
On peut probablement, faudrait dire beaucoup de choses. On va peut-être y penser et puis consacrer une émission au personnage de Peter Pan, qui est un personnage complexe, hein, qui est en gros une sorte d'enfant adolescent qui refuse de grandir, hein, qui est juste avec une relation horizontale, c'est-à-dire sa bande de copains, qui sont tous des frères ou des sœurs. Hein. Ce monde-là, en général, est un monde qui est baigné dans la mer, hein. Il habite dans une île, donc dans la mer, M-E-R et M-E accent grave R-E, c'est-à-dire dans un monde maternel et où il n'y a pas eu le plus souvent de fonction paternelle. Quand je dis la fonction paternelle, je précise bien que cette fonction n'a rien à voir avec le papa, Pendant très longtemps, elle a été dévolue au père, mais ça change énormément. Maintenant, cette fonction paternelle que je vais définir après, elle est portée le plus souvent par les deux parents. Et cette fonction paternelle, elle vise à inviter l'enfant à grandir, c'est-à-dire devenir autonome. Donc au fond, Peter Pan, ce qui lui manque, c'est un père qui lui botte les fesses et qui lui dit « Mon petit gars, il faut que tu te débrouilles un peu, rester dans ton île et puis toujours jouer aux corsaires, aux, je sais pas trop quoi, aux indiens et aux cow-boys, c'est plus possible. » Voilà. Ça, pas pour des raisons morales, c'est parce qu'on n'a pas le choix dans la vie, c'est tout. Voilà, il faut bien grandir et ensuite, voilà, on pourrait imaginer peut-être de rester enfant, hein. C'est le mythe d'Adam et Ève, hein, dans la Genèse. Eh bien, Adam et Ève sont tout nus, il n'y a pas de différence sexuée, ce sont encore des enfants, ils ont un Dieu qui est à la fois un papa et une maman, la maman qui leur donne tous les fruits, hein, qu'il faut, ils n'ont même pas à s'occuper de rien du tout. Et puis, un jour, il faut grandir. Voilà, c'est-à-dire accéder à cette connaissance. Grâce à Ève qui se nourrit du fruit, on grandit, et à ce moment-là, quand on grandit, bah, on s'aperçoit que... c'est pas toujours très simple, et que de temps en temps, pour revenir à d'autres sujets, eh bien, on va être confronté à la peur.
Alors, les enfants ont peur, c'est normal, nous l'avons vu, mais les parents ont aussi peur pour leurs enfants, c'est la contamination de la peur, et là, ça peut aussi poser problème.
Moi, ce que ça m'évoque, en tout cas, là, c'est que l'enfant, il est toujours une prolongation du parent. Hein. Nous avons des enfants, et on leur offre la vie, mais on sait bien que quand on leur offre de vivre, eh bien, on leur fait un cadeau qui n'est pas un cadeau tout rose. Donc, cette peur pour les enfants, elle me paraît, pour ses propres enfants, elle me paraît légitime, dans une certaine mesure. Et il va bien falloir, d'ailleurs, que le parent ou les parents contiennent cette peur. Parce que s'ils ont peur pour leurs enfants, les enfants ne vont pas pouvoir sentir ce dont je parlais la dernière fois et là un petit peu, c'est-à-dire ce côté de la merveilleuse, hein, c'est-à-dire de ce personnage qu'on va intérioriser et qui va nous donner une sécurité. Donc, les parents ont le droit d'avoir peur, mais il leur est conseillé d'avoir peur entre eux, de discuter entre eux. Mais par rapport à l'enfant, c'est probablement important qu'ils incarnent une sécurité. Que cette sécurité soit parfois un petit peu surjouée, c'est possible, et peut-être d'ailleurs il n'y a pas toujours le choix. Le monde qui est en train d'émerger est un monde plein d'incertitudes, et on peut se dire, comme certains le font, est-ce qu'on a encore le droit d'avoir des enfants? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est éthiquement honnête? Est-ce qu'on a le droit presque moral d'avoir des enfants, compte tenu qu'on va leur laisser une planète qui est en train très très mauvaise santé, on va leur laisser une dette abyssale, enfin, vous voyez tout ça. Donc je pense que, en tout cas, à partir du moment où on a des enfants, il y a lieu en tant que parent de se dire... il faut que j'arrive à m'expliquer avec moi-même de mes peurs et à proposer quand même à l'enfant ma propre sécurité pour qu'il l'intériorise à son tour.
Docteur Dominique Michel, donc le paternel qui va pousser l'enfant vers l'extérieur et le maternel qui va au contraire le sécuriser à l'intérieur. Voilà, c'est pas contradictoire, ça, justement?
Si, c'est contradictoire, ce sont deux fonctions. Mais l'idée, c'est que pour grandir, il faut à la fois pouvoir grandir, il faut donc avoir été en relation, et il faut pouvoir être autonome, donc se séparer. Donc, en effet, il y a deux choses qui sont contradictoires. Le maternel, il est ce qui apporte la sécurité. Globalement, l'image du maternel, c'est une image contenante. Hein, c'est comme une sorte de... voilà, c'est le récipient, c'est le réceptacle, c'est l'utérus, c'est le ventre. Hein, il y a quelque chose autour de ça. Et quand on est... C'est la maison, par exemple, aussi, hein, la maison. Dans la maison, on est bien, on est chez soi, il fait chaud, psychiquement chaud, affectivement chaud... et puis peut-être en termes de température aussi en hiver, on y est bien et on s'y sent en sécurité. Cet espace contenant, cette symbolique contenante, cet archétype du contenant, il est en effet du côté du maternel. Et il est donné par le papa et par la maman. Cet élément-là, il doit être intériorisé, il faut, voilà, on n'a pas le choix, il faut qu'il soit intériorisé par les enfants. Et quand les parents n'arrivent pas à transmettre, et je vais faire une petite nuance après, à transmettre cette forme de sécurité, Alors pour l'enfant, c'est plus difficile. Comment ça se transmet, cette forme de sécurité, par les parents, pour donner des choses très concrètes? En gros, c'est « essaye, tu vas y arriver ». Voilà, c'est-à-dire le parent dit à l'enfant « eh oui, c'est peut-être difficile d'apprendre à lasser ses lâchers de chaussures ou
aller vélo. »
De faire du vélo, voilà, on peut avoir peur de tomber, et ça c'est une peur objective, de se faire mal, etc. Mais tu vas y arriver. C'est-à-dire, en gros, c'est la confiance que moi j'ai en moi, que je te passe et je t'invite à récupérer cette confiance que moi j'ai en toi, et tu vas y arriver. Voilà, et on sait très bien à l'enfant que lorsqu'on lui dit une parole sécure, qui est de dire « tu vas y arriver », eh bien que c'est très aidant. Ça ne marche pas à tous les coups, bien évidemment, parce qu'apprendre du vélo, on ne fait pas ça, on ne monte pas, et puis d'un seul coup, on sait. Il y a des tas de choses à sentir, il y a une dimension très physiologique, il faut que le cerveau l'ait, le sens de position d'articulation, l'anticipation, enfin, il y a des tas de trucs, c'est comme la marche. Hein. La marche, c'est jamais qu'une suite de chutes évitées. Puis quand on a appris tout ça, bah, après, ça devient automatique. Donc, il y a cette dimension-là. J'ai envie de préciser une toute petite chose qui me semble importante, c'est... Lorsque l'enfant, par exemple, a peur ou qu'il est très anxieux, voire qu'il est angoissé le soir, je pense que c'est très important que mes propos ne soient pas compris dans la direction de « c'est de la faute des parents ». Non, ce n'est pas ce que je crois. Il y a quelque chose qui a du mal à se transmettre du côté de cette sécurité. Mais loin de moi l'idée de penser, de dire, mais même de penser que c'est de la faute des parents. D'abord parce qu'en général, il n'y a pas de faute. De temps en temps, il peut y avoir une difficulté. De temps en temps, il peut y avoir une incompétence. De temps en temps, il y a des blessures chez les parents. Mais l'enjeu, ça va être à ce moment-là d'aider les parents. Et puis, il faut penser aussi que l'histoire familiale et cette solidarité familiale transgénérationnelle, elle concerne aussi les grands-parents. Et en particulier, moi, dans l'expérience que j'en ai, lorsqu'il y a des peurs qui sont très précoce chez l'enfant, hein, c'est-à-dire en gros avant 2-3 ans, hein, des enfants qui par exemple pleurent toutes les nuits, qui font des nuits complètes très très tardivement, qui ont des troubles des conduites alimentaires, etc. Souvent, si on a envie de rechercher parmi d'autres facteurs, parce qu'il y a d'autres facteurs qui comptent, hein, contemporains, sociaux, familiaux, le travail des parents, plein de choses, il y a lieu aussi de rechercher dans l'histoire des grands-parents. Hein. Voilà, parce que de temps en temps, il y a une peur, enfin une phobie, je dirais plutôt, une phobie là, qui se transmet des grands-parents aux parents. Et en fait, c'est l'enfant qui va devenir le porteur symptomatique, c'est-à-dire celui qui va en faire un symptôme, alors que ça concerne éventuellement ses grands-parents.
Docteur Dominique Desmichel, en quelques mots, une peur aussi qui peut naître chez l'enfant, c'est à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, c'est au sein d'une fratrie, ça va créer de nouvelles insécurités.
Oui, tout à fait, tout à fait. On voit ça, en tout cas, après, au moment de l'arrivée d'un frère ou d'une sœur après soi, parce que bien évidemment, ça va nous enlever quelque chose de ce côté... de cette place particulière auprès des parents. Alors, c'est vrai beaucoup lorsqu'il y a un deuxième qui arrive après un aîné, mais moi qui suis l'aîné d'une très très grande famille et donc avec plein d'enfants, j'ai bien vu au fond qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau, eh bien, ceux qui étaient là avant se sentaient un peu poussés, quoi. Ils se sentent poussés dans les coulisses. Et voilà. Et, hein, d'autant que lorsqu'il y a un nouvel enfant, évidemment, la maman au premier chef, le papa aussi, et de plus en plus, c'est les papas et peut-être un petit peu moins les mamans. Enfin, en tout cas, les parents sont très, très centrés sur cet enfant. Il suffit de se rappeler les poèmes de Victor Hugo à ce sujet-là. Donc, il peut y avoir en effet quelque chose qui peut être, je ne dirais pas angoissant pour l'enfant, parce que si la situation familiale est porteuse, alors il n'y a pas de raison qu'il y ait vraiment d'angoisse, mais il peut y avoir un imaginaire qui se déploie en disant... voilà, mais peut-être qu'on va m'abandonner, ou peut-être qu'il y aura plus assez à manger, par exemple, ou peut-être il n'y aura pas de lit pour moi, puisqu'on va me chasser de mon lit. Ou... Et puis parfois, il y a des choses très concrètes. Bah, écoute, il y a ton petit frère, ta petite sœur qui est arrivé, tu vas aller dormir dans l'autre chambre. Voilà, et l'enfant, il est chassé. De temps en temps, c'est... Moi, je me souviens très bien d'une... Alors, je vais donner un petit exemple familial, parce que du coup, voilà. Lorsque la troisième est née, on a changé les chambres. Alors, vous voyez, j'avais complètement oublié cet élément-là. On a changé les chambres et on n'a pas du tout prévenu l'enfant qui était juste avant. Et pendant 2-3 nuits, cet enfant-là, qui avait une position, n'a pas dormi du tout. Voilà, et vraiment, il nous a fallu, je pense, 48 heures pour nous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il n'y a rien de particulier. Si on l'avait changé de chambre, et on ne lui avait pas expliqué, on lui avait dit ça un peu rapidement, quoi, et puis peut-être on était, vous voyez. Alors, on a repris ça, on lui a expliqué, on a, voilà, on a fait des tas de choses, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais en tout cas, si après elle dormait mieux, en tout cas.
Docteur Dominique Desmichel, pour conclure cette émission avec l'enfant et ses peurs, on a bien compris, vous avez parlé de confiance tout à l'heure. Le plus difficile à transmettre, c'est évidemment cet amour, cette estime de soi et cette confiance en la vie. Et ça c'est le vrai défi peut-être que les parents ont à relever.
L'estime de soi, quand on y réfléchit à la genèse de l'estime de soi, en fait, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qui fait qu'on a une certaine estime de soi. Il faut en avoir un petit peu, il ne faut pas en avoir trop. Il y a quelques grands personnages de l'histoire de la planète actuellement, et puis d'autres ailleurs dont on dit qu'ils ont un peu un ego surdimensionné. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une surconfiance en eux, une surestime de soi. Et ça, ce n'est pas bon dans la vie non plus, hein. Cette estime de soi, elle est sûrement très très déterminée par la relation entre les parents et les enfants, c'est-à-dire par cette confiance que donnent les parents. Voilà. Ça ne veut pas dire tu vas y arriver quoi qu'il arrive, mais tu as les capacités de le faire, réfléchissons ensemble et tu vas pouvoir y arriver. Je crois que chez la majorité, en tout cas des enfants, et il me semble peut-être aussi des adultes phobiques, il y a quelque chose autour d'une atteinte de l'amour de soi, de l'estime de soi. Parce que c'est vrai qu'en gros, plus vous vous aimez bien vous-même, plus vous vous sentez en sécurité. Alors c'est difficile de savoir dans quel sens marche la causalité, parce que ça peut être dans l'autre sens aussi. Finalement, plus on se sent en sécurité, plus on a des chances de réussir dans la vie, et donc ça va augmenter notre estime de nous-mêmes. Donc vous voyez, il y a une sorte de cercle vertueux ici, c'est si j'ai confiance en moi, je vais plus y arriver, si j'y arrive, je vais être plus heureux, ça va augmenter l'estime de moi, donc je vais plus y arriver. Et à l'inverse, il y a un cercle vicieux qui est que quand on est blessé, quand on n'a pas d'estime de soi, alors on réussit encore moins à y arriver, et donc ça nous rend encore plus peureux, encore plus anxieux. Et ça vient réveiller à l'intérieur de nous-mêmes toutes nos angoisses.
Docteur Dominique Desmichel, merci beaucoup. Nous n'avons pas fini de faire le tour de cette question de la peur et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.
Merci Simon. I know your children, I know.
I know your children. Sleep good tonight.